Ai-je l'oreille bien tendue? Il y a quelque chose de vert, de bleu. On dit même qu'il y a deux couleurs quand on survole ce pays. D'abord le vert, lorsqu'on vient de la partie continentale, c'est-à-dire de la verdure, de la végétation, quelque chose de sauvage comme ça, quelque chose de... Bah tiens, regardez en bas, ça ondule même. Il peut y avoir du vert et quelques noirs et des couleurs, je parle des gens qui y vivent. Un pays peu peuplé, donc beaucoup de nature, et tout à coup, on plonge dans un bleu. Mais un bleu qui a vraiment une couleur étrange, c'est-à-dire un bleu qui peut tourner au turquoise, qui peut tourner au bleu jade. Enfin, il y a des tons comme ça qui, incontestablement, lorsque vous les... observez pour la première fois, vous ne dites pas seulement Blue Hole, vous dites carrément Caraïbes. On a l'impression qu'on est vraiment sur une barrière de corail. En face de moi, Nicolas Furet, qui est tombé en amour, comme dirait un Canadien, d'un pays que personne ne connaît et que tout le monde a envie de connaître, le Belize. Le Belize, c'était l'ancien Honduras britannique.
Oui, c'est ça.
Et quand on y arrive pour la première fois, est-ce qu'on entend vraiment ce qu'on entend? C'est-à-dire Andy Palacio, qui vient de Barango, qui est Garifuna, une ambiance. Écoutez, juste un petit son supplémentaire pour vous mettre vraiment dans ce ton. Nicolas Furet, vous ondulez quand même, je veux dire, on bouge, hein?
On bouge à Belize.
Là, à la hauteur des épaules, il se passe quelque chose. Oui. Racontez-moi votre premier choc. Allons-y, Garifuna, on passera peut-être les... Est-ce qu'on peut dire les races? Oui, les différentes races, parce que
oui,
ce sont bien des races.
Oui, les différents mélanges, ils sont tous béliziens, mais ils viennent de beaucoup, beaucoup de choses différentes, beaucoup de pays différents, beaucoup d'origines différentes.
Où sommes-nous?
Nous sommes à Belize, nous sommes à Belize City, où c'est mélangé, où c'est une ville qui est très caribien, parce que c'est sur le Caraïbe. Vous avez la mer, vous avez des pélicans, vous avez les gens de toutes les couleurs, vous avez des marchés. C'est une petite ville, c'est pas une grande ville.
On peut réécouter la langue et vous allez voir qu'effectivement c'est assez curieux. Là, juste après la musique, je pense qu'il va rechanter là, non? Notre ami Andy Palacio. Je regarde les yeux de Nicolas Furet briller. Il faut dire que Nicolas Furet s'occupe particulièrement du Belize. Mais quand je lui ai posé la question où est le Belize, c'est que personne ne sait où est le Belize, tonnerre. On a parlé des Caraïbes, je veux bien, mais au nord, il y a le Mexique, le Campeche, le Yucatan. À gauche, il y a le Guatemala. Au sud, il y a le Honduras. Et ça s'appelait avant
British Honduras, l'Honduras britannique, qui est maintenant le Belize.
Petit
indépendant, pays, petit pays, 230 000 habitants.
Combien?
230 000.
On croit rêver.
Dans la taille de la moitié de la Suisse.
C'est ça. Alors la moitié de la Suisse, 230 000 habitants, c'est-à-dire la moitié du canton de Genève. Il n'y a que du vert finalement.
Il y a beaucoup de vert, beaucoup de vert, beaucoup de plages, beaucoup de forêts pluviales, beaucoup de liberté, beaucoup de parcs, beaucoup d'animaux.
Wow.
et pas beaucoup de gens, mais beaucoup d'animaux.
Il y a sûrement plus d'animaux que d'habitants.
Bah, sûrement, vous avez plus d'oiseaux, des papillons, vous avez des jaguars, vous avez la seule réserve pour les jaguars dans le monde.
Vous avez un petit accent du Belize, est-ce que non?
Non,
c'est plutôt le côté britannique.
C'est un accent plutôt britannique, mais ça peut être Belize aussi, parce que Belize était avant britannique.
Quand on est britannique ou qu'on a été britannique,
c'est très difficile à le perdre.
Vous êtes un peu genevoise quand même.
Un petit peu.
Oui, un petit peu, beaucoup.
Petit peu.
Mais en l'occurrence, quand tout à coup on fait le choix, en tant qu'originaire de Grande-Bretagne, d'un petit pays tropical, et qu'on se dit « je vais être celle qui représente ce pays », pour la Suisse romande, pour la Suisse.
Oui, nous représentons, mon mari est le consul général honoraire de Belize. Il y a plusieurs années qu'il a visité le pays. Il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour le Belize en Suisse?
Comment est-ce qu'on tombe amoureux du Belize?
On tombe peut-être amoureux des gens. Si on a connu le Caraïbe depuis longtemps, si on a connu des gens des colonies, ce qu'étaient les colonies. C'est un petit pays où les gens sont indépendants. Ils ont très important leur indépendance. Ils ont lutté pour ça. Ils ont jeté des pierres. Ils ont mis les Anglais. Oui,
ça, ça vous plaît, parce que vous venez de dire, jeter les Anglais dehors d'une certaine manière. Il n'y a que 4% d'Européens qui ont pu être d'anciens pirates, qui sont des gens qui sont arrivés comme vous, je veux dire.
C'est aussi. Ça, moi j'ai jamais vécu à Belize, mais cœur là-dedans. C'est vrai que c'est Belize, ça vient du nom de Wallis. Wallis, c'était un pirate très connu, qui paraît qu'il était sur le bateau de Francis Drake. Il est devenu pirate comme beaucoup, parce qu'on gagnait plus comme ça, qui était battu par les grands
à l'époque.
Marins. hein, à l'époque.
Il valait mieux être brigand et piquer un bateau espagnol et le ramener à la reine d'Angleterre.
C'était plus intéressant. Et puis, ils sont arrêtés à Belize, où ils sont devenus des gens qui coupaient le bois. Ils coupaient de bois les logwood qu'ils envoyaient en Angleterre pour faire les couleurs, les teintures.
Nicolas Furet, quand vous parlez de bois, vous parlez de bois tropicaux. Il y avait des forêts incroyables, ils sont toujours là.
Il y a toujours des forêts tropicaux merveilleuses à Belize. Oui, oui, ils ont une grande, grande richesse.
Donc on imagine des fleuves qui descendent doucement vers ces Caraïbes. Et puis on coupait, on laissait descendre le bois, on le chargeait sur des bateaux qui étaient un peu plus gros peut-être que les caravelles du début.
Exactement, ça commençait comme ça. Puis après, dans l'époque des esclaves, il y avait des esclaves qui sont venus à Belize, beaucoup qui sont partis d'Amérique du Nord, mais c'était des esclaves bien traités.
Vous voulez dire par là que ceux d'Amérique du Nord qui venaient de Nouvelle-Orléans ou des coins, c'est pas très loin finalement. Quand on pense au Yucatan, la côte du Belize est juste en dessous.
Exactement, Miami, une heure et demie de vol, ça c'est pas loin.
Ils avaient pris cet endroit comme un endroit refuge.
Sûrement, ils ont travaillé, mais c'était difficile d'être esclave battu à Belize, parce que si vous partez dans la forêt pluviale avec un maître et vous étiez quelques esclaves, le maître devait être gentil parce que sinon c'était pas lui qui retournait.
Avec un arbre sur le coin de la tête.
Exactement.
Conditions difficiles, elles le sont toujours, mais en même temps un côté très paisible. C'est une petite république aujourd'hui qui s'est libérée, vous le disiez.
C'est un pays indépendant, démocratique.
À partir de 1964, si ma mémoire est bonne.
C'est ça, oui.
Avec un Andy Palacio qui on entendait chanter tout à l'heure, c'est-à-dire un Garifuna. Un Garifuna, puisqu'on va parler des différentes races. C'est quelqu'un qui serait originaire d'Afrique ?
Originaire d'Afrique, je crois qu'il dit plutôt Nigeria, parce que c'est une langue qui ressemble à des parties de Nigeria.
Langue spéciale.
Langue spéciale.
Une c'est
langue,
vrai qu'on ne comprenait
une langue,
pas.
Une propre langue qu'on ne connaît pas. Il y a des gens qui vont dans la partie de Ponta Gorda, c'est dans le sud de Belize, pour étudier le Garifuna, il est en école. Et ils gardent toute la coutume, les coutumes que nous, pour nous, c'est un peu africain, mais ils ont mélangé ça.
Alors, en musique, ça s'entend, il y a un rythme. On entendra d'autres musiques Garifuna tout à l'heure, a cappella ou avec des instruments. Les instruments, il y avait à la fois un côté métallique, il y avait des tambours.
Il y a les carapaces de tortue. Là, il prend des tailles différentes pour faire les sons différents.
C'est joli, ça, les carapaces de tortue.
Les tortues.
Les tortues, c'est-à-dire que vous pouvez créer des sons musicaux avec la grosseur de la carapace.
Comme les steel drums que vous connaissez pour Jamaïque. Mm-hmm. Oui, ça existe aussi à Belize.
Une ambiance qui fait dire aussi que si on a pratiquement 60% de ceux qu'on appelle des créoles, bizarrement, dans un petit pays comme le Belize, ces créoles ne sont pas blancs.
Non, il y a des créoles de toutes les couleurs, mais d'abord noirs. 60% de la population est noire et le reste, ça va de jaune, d'indien, de brun à blanc.
Là, vous disiez indien, nous sommes en pays maya. C'est-à-dire, je parlais du Guatemala, du Honduras, du Yucatan. Oui. Le Belize fait partie de cette immense surface qui recouvrait, les différentes cités-états qui occupaient l'ensemble de la civilisation maya, c'est-à-dire de ces 325 000 km². Là, on a à peine 20 000 et quelques kilomètres aujourd'hui de cet empire, de cette immense zone maya.
Avec plus de 600 sites mayans.
Alors, quand vous dites 600 sites, ça veut dire que si je pars dans la forêt, je peux trouver certains sites qui sont encore inexplorés et je peux trouver des sites aussi importants que ceux qu'on a au Mexique, qui fait plus de publicité que le Belize, il faut le dire, ou le Guatemala.
Oui, il y a le plus grand qu'ils connaissent à ce moment, c'est Caracol, où il y a des stelae qui disent qu'ils ont battu les gens de Tikal. Et quand ils ont fait ça, ils ont ramené les maçons à Caracol.
Vous voulez dire par là ces stèles qui sont des arbres de pierre sculptés, des énormes masses de pierre qui ont à la fois des hiéroglyphes, enfin des glyphes mayas et le dessin des grands souverains qui sont partis en guerre dans les années 700 et qui ont gagné certaines guerres.
Qui ont gagné et qui racontent leur histoire et qui racontent la façon de compter, qui racontent toutes les merveilles qu'ils avaient dans ces civilisations.
Donc vous défendez ça comme un bon belicéen, c'est-à-dire de faire comprendre que parmi l'ensemble des pays d'aujourd'hui, le Belize représente certainement un point central de cette civilisation ancienne et maya. Il reste encore des mayas, ils sont à peu près 10 à 15% aujourd'hui.
Oui, il y a des mayas qui sont de Belize et d'autres qui sont descendus quand il y avait les guerres de Yucatan, les guerres mayannes
dans le nord.
1900, et beaucoup qui sont descendus du Mexique.
Et d'autres qui viennent du Guatemala.
Et vous, sûrement. Et puis on voit de temps en temps un qui sort en cheval, qui doit être vraiment la Maya comme vous pouvez l'imaginer.
Avec une belle peau bistrée, l'œil en amande à l'indienne puisqu'il est asiatique d'origine. Et puis, une langue qui est également sa langue Maya.
Oui, tout à fait.
Éventuellement l'espagnol.
Éventuellement, oui.
La langue du pays, c'est
l'anglais.
Un anglais comment? Est-ce que vous arriveriez à prendre en bonne britannique un accent du Belize?
difficultés. Ça chante beaucoup. Il y a beaucoup qui parlent anglais, puis dans la rue, c'est le créole, qui est le créole de Belize.
Avec un beau mélange, là.
Avec un beau mélange, mais ils ont des expressions spéciales qu'il faut vraiment comprendre. Oui.
On ouvre juste un œil de notre caméra. Où est-ce que vous aimeriez vous asseoir pour quelques instants pour prendre quelque chose à boire qui soit bien du Belize? C'est-à-dire croiser le Belize à travers ces regards qui passent devant nous. Quelle ambiance vous aimeriez?
Le Belize City où tout bouge, qui tout, les gens sont là, le marché, vous êtes près des magasins qui sont des magasins très simples. Il n'y a rien de très grand, il n'y a rien de très luxueux, mais il y a toute cette bonne ambiance des
couleurs.
Gens, des couleurs, des marchés, des citrons, des oranges, les fruits.
Autour de vous, les constructions?
Oui, oui, en bois, quelques modernes, toujours couleurs. Oui, oui.
Beaucoup de couleurs. Les gens s'habillent couleur, on vit couleur, on parle couleur.
Oui, oui.
Il fait chaud.
Il fait chaud, il fait toujours
température normale.
35, 30, 35, humide.
Nicolas Furet, vous avez un glaçon dans votre verre, que mettez-vous dessus?
Qu'est-ce qu'on met? Un peu de rhum, si on aime ça.
Un genre de rhum
planteur. Un peu de jus de fruits, des papayas, beaucoup de bananes, beaucoup d'oranges, beaucoup de citriques, beaucoup de produits citriques,
des agrumes,
de Belize, des agrumes.
Mais le rhum a une, je dirais pas une couleur, mais en tout cas un goût bien particulier qu'on retrouve parfois dans les meilleurs vieux rhums agricoles de la Martinique ou de la Guadeloupe.
Ouais, ouais. Il a aussi du vin de cachou. Ça, c'est spécial de Belize.
Le vin de cachou, et puis alors, naturellement, puisqu'on est en train de mélanger toutes les races, il y a aussi quelques épices quand même.
Beaucoup, beaucoup d'épices.
On aime bien les sauces assez relevées.
Très, très. Là, la sauce belizien qui est très piquant, qui est fabriquée, le nom connu, c'est Marisha, qui est une
Marisha
famille qui a fait ça.
Qui vaut tous les tabascos du monde.
Ah, surtout, oui, oui, d'abord, c'est beaucoup plus intéressant, c'est plus fort, c'est vraiment quelque chose naturel.
Après l'apéritif, qu'est-ce que vous aimeriez grignoter?
Qu'est-ce qu'on pouvait manger? L'escabeche, c'est du poulet fait dans une soupe, les tortillas un peu comme les Mexicains.
Alors ça, c'est le bruit normal, quand on fait la tortilla de maïs.
Là ouais. Dedans. Et puis vous êtes sur la plage, vous mangez des poissons, tous les poissons.
Attention, si vous m'arrêtez plage, il y a beaucoup d'endroits où l'on a envie de rêver au Belize. Tout à l'heure, nous irons peut-être jusqu'à Blue Hole. Nous irons nous balader un peu dans ce qu'on appelle les calles en espagnol.
Les keys.
Les keys en anglais. Mm-hmm. Ce sont des îlots coralliens pour la plupart.
Oui, oui, la plupart. Et puis le Blue Hole et les autres, c'est des atolls. C'est le haut des volcans qui sont sous l'eau maintenant.
Deuxième barrière de corail du monde, on l'oublie.
Exactement. Et puis il faut qu'on dise le plus grand dans la partie nord du monde et le plus propre.
Radio Lac, c'est aussi savoir plonger. Naguara yore mumawe Naguara yore muhei Naguara Naguara yore mumaw. Je ne suis pas sûr qu'on nous ait vraiment compris, Nicolas Furet, parce qu'on a déjà des téléphones sur le standard pour dire, mais enfin, c'est pas possible, 230 000 habitants, c'est bien la moitié de la surface de la Suisse. Je parle de la superficie du Belize.
Exactement.
Donc avec 20 et quelques mille, 22 000 km².
C'est ça, avec la population de Lausanne, si vous voulez, étalée sur ce grande surface.
Avec une petite ville comme Belize qui, elle, a 40 000 habitants.
Oui, Belize City, elle a 40 000 habitants.
Donc on prend le reste et on l'éparpille sur le pays. Quelle est la capitale? Ça, c'est une bonne colle si on nous appelait sur le standard.
Ah oui, ça c'est sûr, vous n'allez pas avoir beaucoup de réponses. La capitale,
on pourrait presque leur offrir quelque chose s'ils trouvent.
Hein. Je trouve.
Belmopane, c'est ça?
Belmopane.
Belmopane qui a été inventée de toutes pièces en 1961 à cause d'un...
Un grand ouragan qui a mis Belize City à la mer.
Un cyclone.
Beaucoup détruit beaucoup de choses. Oui, oui,
donc
oui.
On s'est dit, on ne va pas laisser une capitale en bordure de mer puisqu'on est au bout de la Belize River pour Belize City.
Oui.
Et là, on s'est dit, c'est trop risqué. On va installer une petite capitale administrative, une sorte de district fédéral, une chose particulière à l'intérieur des terres.
Oui, à une heure de route, on monte un petit peu, c'est plus haut, c'est soi-disant un climat plus sain. Mais la plupart des ministres préfèrent passer 2 heures sur la route pour retourner à Belize City où il a la vie.
Donc il n'y a personne à Belmopane.
Belmopane, il a 8000 habitants.
D'accord. Si je prends les points névralgiques, en tout cas par rapport à une idée touristique, puisque dans un consulat, c'est ce qu'on vient de vous demander, où est-ce que vous enverriez quelqu'un au premier degré? Tout à l'heure, vous étiez à Caracol, qui est un superbe site archéologique qui vient d'être véritablement ouvert. Je l'ai visité il y a quelques semaines encore à la visite touristique. On voit maintenant des stèles, on voit des pyramides. Il y a un nouveau musée qui explique l'histoire extraordinaire puisqu'on peut lire maintenant les glyphes de Caracol. Donc on a fait un grand pas dans l'histoire maya. Et puis un peu plus haut, on se retrouve dans des réserves fantastiques, presque dans les sommets finalement du Belize. On est à 1000, 1200 mètres d'altitude au maximum dans ce qu'on appelle...
Les montagnes de Maya.
Les Maya Mountains.
Qui sont des mini-montagnes quand on est suisse, mais qui sont très importants pour Belize.
Parce que tout est plat.
Bah, tout est assez plat, oui.
Alors, ces montagnes, quand j'y suis allé pour la première fois, j'ai pensé Provence, j'ai pensé Pin, j'ai pensé Montendre. Je veux dire par là que c'est très bas. C'est encore très bas, 1000 mètres, mais on a déjà des pins, on a déjà un souffle agréable, et puis alors des cours d'eau absolument incroyables avec des chutes d'eau, des marmites, des endroits où l'on a des piscines naturelles pour se baigner. On nage comme ça sur 500 mètres dans une rivière qui s'est arrêtée par hasard par un barrage naturel. Et puis vous avez des allumés de service sympathiques qui, en pleine réserve, parce qu'on est dans une réserve, ont tout à coup voulu acheter un bout de rivière ou une ancienne propriété qui existait déjà avant la réserve.
Oui, ou inventer une propriété complètement, comme Monsieur Coppola, que vous
pensez
connaissez
à Francis,
très bien.
Francis Ford Coppola. Ouais, qui... Tout le monde le connaît parce qu'on a tous vu un ou deux de ses films.
Mais vous avez tous vu Apocalypse Now.
C'est... Apocalypse Now, oui, bien sûr.
Il paraît qu'après, quand il a tourné le film, il est parti pour un peu de vacances, il est parti à Belize. Et là, ça lui a fait penser, il est tombé amoureux, il a acheté une partie pour faire vraiment une réserve pour lui-même. Et après, il partage ça maintenant avec le public.
Nicolas Furet, je peux vous décrire ma vision de l'endroit de ce monsieur Coppola?
Sûrement.
Parce que je crois que c'est quelque chose qui fait rêver. Je veux dire, imaginez un jardin japonais. C'est-à-dire des pins qui ont vraiment vécu. Avec ce côté, comme si je prenais mon pinceau japonais et que je commençais à inventer des pins qui sont posés sur des rochers impossibles, avec une rivière fantastique, avec des cascades. Et je me mets en main, je m'achète carrément 10 à 15 kilomètres d'une rivière sauvage, comme ça, et j'aménage un tout petit peu. C'est-à-dire, je fais en deux blocages de la rivière, j'invente une partie qui va devenir plus plane. Et là, vous pouvez carrément faire trois piscines olympiques. En pleine nature, autour de vous, il y a des colibris, il y a des oiseaux, il y a une nature sauvage. Et puis juste derrière vous, il y a un petit pont en bois, il y a un petit restaurant génial où naturellement vous aurez de la pizza, des spaghettis parce que Coppola, c'est italien et que la haute cuisine peut être italienne, même au Belize. Et puis juste à côté encore, vous avez des... Comment est-ce que je vais les appeler? Ce ne sont plus des bungalows, ce sont de véritables villas faites à la façon bungalow, avec un toit en chaume, avec du bambou à l'intérieur, avec des meubles d'une simplicité démentielle, mais c'est du tech de qualité, avec un hamac suspendu devant vous, avec une alcôve où vous pouvez passer une partie de la soirée bien éclairée, une petite cuisine parfaite, un lit à rêver avec des textiles du Guatemala ou du Belize. Enfin, vraiment, ce que j'appelle le luxe parfait. Pour moi, un des 10 hôtels les plus beaux que j'ai vus dans le monde.
Oui,
tout simplement parce qu'il est perdu dans un endroit où l'on se dit ça n'est pas possible d'avoir ce confort. Si par hasard on entend un bruit, c'est l'avion personnel de Monsieur Coppola qui s'est posé à quelques centaines de mètres et qui vous amène directement des États-Unis.
Des visites assez rares, je crois.
Très rares, mais enfin, avec une épouse qui s'y est beaucoup intéressée, une personne qui s'en occupe. Je prends cela pour montrer qu'au Belize, on peut finalement tout se permettre.
Sûrement. Oui, et ça c'est pour ça qu'il y a des gens qui en prennent la liberté en faisant des lodges, comme on les appelle. Il y a des autres qui sont venus de Kenya parce qu'ils tombaient en mort amoureux de Belize, qui ressemblait un peu à la vie qu'ils ont connue.
Là, vous pensez aux animaux sauvages, vous pensez à ces réserves.
Tout ce qui est ça, les réserves, la liberté,
tapir,
l'espace, le tapir qu'on appelle la vache de la montagne. Le tapir, c'est avec un long nez, avec des pieds comme une vache, mais c'est le tapir. Il y a les jaguars que vous allez voir rarement, mais vous allez peut-être passer dans un endroit où vous voyez que le jaguar a passé parce qu'il a des os.
Vous pouvez vous retourner, Nicolas Furet, il y a tout un vol de perroquets là.
Quelle chance. Et puis il y a un vol de papillons derrière ta tête là.
En l'occurrence, quand on dit lodge, comme on le situait tout à l'heure pour Francis Ford Coppola, ça s'appelle
Blancagneau, un nom français.
C'est le nom de l'ancien propriétaire.
Oui, c'est ça.
Blancagneau, c'était celui qui possédait l'endroit. Mais il y a comme ça des lodges un peu partout.
Oui, il y a beaucoup. Dans la partie, là, c'est la région de Belize que nous appelons le Cayo.
Le district du Cayo.
Le district du Cayo. C'est plutôt forêt pluviale. Il a certaines ruines, il a la ville de San Ignacio qui touche la frontière de Guatemala, mais qui est très agréable, c'est un climat très agréable.
On peut inclure, puisque vous parliez de San Ignacio, le fait que la frontière soit tout près, que cette frontière est une des sorties majeures du Belize, qui va nous amener près d'un lac extraordinaire qui est le lac Flores, et puis à quelques kilomètres de là, vous avez le plus grand site maya que nous connaissons, c'est-à-dire Tikal.
Tikal, oui.
Donc c'est un endroit stratégique extraordinaire pour une visite complète.
Tout à fait, tout à fait.
Au nord de cet endroit, il y a d'autres réserves. C'est-à-dire si on prend le Belize dans son entier, le sud est pratiquement désert, finalement désert sur le plan population, mais il y a toujours cette nature et ces animaux.
Oui, et sur la côte plutôt, il y a Dangriga, Placentia, que sont les villes du Punta Gorda, les villes du sud de Belize.
Qui sont tout à fait accessibles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même un côté anglais. Je veux dire, on traverse des gazons anglais, des petites maisons en bois, mais qui font très, très britannique dans leur qualité, leur propreté. C'est un pays impeccable, finalement.
Oui, c'est ça. Et puis, il a les enfants qui sont tous en petit uniforme quand ils partent à l'école.
Ça, c'est un aspect important, Nicolas Furet. On rêve en Amérique latine d'avoir un taux d'alphabétisation aussi élevé qu'au Belize. On arrive à plus de 90% d'alphabétisation. Je veux dire, c'est quand même un peu comme le Costa Rica. Mm-hmm. On n'en parle pas assez du Belize. Mais c'est un pays qui a vraiment tout ce dont il a envie. Je veux dire, il est encore appuyé par la couronne britannique. Il est en même temps dans un univers suffisamment sauvage et libre pour se protéger lui-même.
Oui, et puis cette indépendance qui est très fière et l'éducation qui est très importante pour le nouveau premier ministre qui était avant le ministre d'éducation et qui veut garder ça. Et une population très jeune. Il y a un énorme pourcentage du pays qui ont moins de 20 ans.
50% de moins de 14 ans.
Quelque chose comme ça, oui.
Est-ce que vous pourriez, vous, dire à ceux qui nous écoutent, parce que c'est vrai que je suis mal placé, parce que quand on me demande quelque chose sur le Belize, c'est pour prendre les vacances au Belize. Mmh. Lorsqu'on travaille, comme vous, dans un consulat, et qu'on reçoit le Suisse qui vient demander un visa, parce que le Belize étant très protectionniste, a même un visa assez cher, autour des 80 francs.
Oui, mais ce que je dis toujours, c'est si vous êtes Belizien, essayez de venir en Suisse, parce que c'est très compliqué.
On est d'accord.
Et assez cher.
Non, ça, je vous suis entièrement. Non, mais j'apprécie au contraire cette dimension du Belize qui veut dire, attention, nous sommes 200 000, on aime notre pays, n'y mettez pas les pieds comme vous l'entendez.
Non.
Il y a une protection.
Certainement, oui.
Et puis, un lodge à 100$ ou 200$, c'est une protection aussi.
Exactement. Et c'est Belize pour les Béliziens. Nous, les Béliziens sont d'accord pour le partager avec vous, mais ils ne veulent pas vous le donner.
C'est-à-dire qu'on ne veut pas le brader.
Non, exactement.
C'est de l'intelligence à long terme, d'après vous?
J'espère. Oui, les meilleurs secrets, c'est les endroits comme ça. Non?
La protection de ces réserves existe. Elles sont vraiment protégées au Belize.
Oui, les Béliziens respectent ça. Il y a beaucoup d'éducation là-dessus. Et puis, de plus en plus, c'est une chose respectée. Les Béliziens se rendent compte que c'est ça qui emmène les gens.
Leur trésor.
Le trésor. Le tourisme, c'est quand même une industrie très importante maintenant.
Cette nature qui me fait penser, par exemple, à ces cinq villages qui protègent ces...
Les
singes hurleurs.
Les singes hurleurs.
Vous connaissez l'endroit?
Oui, ça c'est le Baboon Sanctuary. Et là, il y a cinq villages qui sont mis d'accord avec le WWF pour garder ces singes. Ces singes vivent en famille.
Quand on dit singe, qu'est-ce que c'est comme singe?
C'est un singe qui est le singe hurleur, qui est noir, qui est très poilu, qui est petit, avec une longue queue.
Là, vous parlez du mâle.
Je parle du mâle.
D'accord, vous voulez que je vous fasse le mâle,
oui,
Nicolas Furet?
Oui, vous faites le hurleur.
C'est enfin, ça. Des bruits absolument épouvantables.
Des bruits épouvantables. Et une fois que...
Ça sert à quoi?
Il y a un qui commence, c'est pour garder sa territoire. Parce qu'il y a un qui hurle dans l'arbre et les autres à côté, ils savent que ça, c'est à lui. Et que c'est lui et sa famille. C'est ça.
C'est une espèce d'aboiement et ça ressemble au feulement du jaguar, en fait.
Dans une façon, oui, c'est vraiment... Sauf que ça vient des arbres au-dessous de votre tête. Et je crois que le jaguar, il sera derrière l'arbre.
Plutôt, oui. En l'occurrence, ils vivent en colonie.
Ils vivent en petites colonies, surtout familiales. Deux, trois groupes, et c'est le mâle qui protège. Et quand il fait ce bruit, les voisins savent que ça, c'est son quartier à
donc
lui.
Donc, il a créé, comme pour le Belize, son petit territoire à
exactement.
Lui.
Exactement.
Pas trop grand, pas trop petit.
Non, et les Béliziens l'appellent le babouin.
J'aime l'entendre entre 5h et 6h du matin. Il y a des heures de grâce dans certains pays. Le Belize, c'est un pays où, même si on aime la grâce matinée, le hamac, les vacances, le sable, la plongée, se lever lorsque les premiers bruits d'oiseaux, je crois qu'il y a plus de 300 variétés d'oiseaux dans ce pays,
C'est sûr.
Tout à coup, il y a une espèce de magie comme ça. Ça s'éveille vraiment, ça grouille. Avant que le soleil soit là, il y a le singe hurleur que j'évoquais, mais les premières perruches, les premiers perroquets, les premiers colibris.
Les premiers insectes
aussi.
Tout commence. Mmh. Tout commence, tout vit, tout prend vie et puis ça continue. Jusqu'à la journée où c'est peut-être tranquille et le soir, encore les soirs de bientôt, si vous êtes près de l'équateur.
On a l'impression d'un paradis.
Tout à fait.
Est-ce que c'est un paradis?
Oui, c'est un paradis.
Sans équivoque professionnel ou consulaire, est-ce que c'est un paradis? Est-ce que vous voyez un défaut par rapport à un fonctionnement qui est celui du Belize? Je veux dire par là, est-ce que vous sentez un danger comme on le sent dans d'autres pays d'Amérique latine ou au contraire, vous trouvez que la voie actuelle du Belize est une voie fine, intelligente
Je crois, il a toujours les difficultés d'être très proche d'un grand pays du Nord qui pouvait toujours vous envahir avec d'abord trop de touristes et après trop
Là, vous
d'idées
pensez au Mexique, oui.
Au Mexique, aux États-Unis qui n'est pas loin. Mais je crois qu'il y a une certaine indépendance, que les Béliziens veulent garder ce qu'ils ont. Ils ont une culture, ils ont une éducation et ils apprécient la nature. Et il y a toujours l'envie d'être un peu comme ce qui se passe dehors, mais je crois avec une intelligence. Et puis il y a un grand avantage parce qu'à Belize, comme ils disent, « Nobody is in a hurry but you ». Ça veut dire « personne n'est pressé à Belize ». Ça veut dire aussi que les grandes décisions pour le développement, ça prend du temps. Et quand on prend du temps, on pense plusieurs fois.
On va prendre un peu de temps, on va retourner tranquillement à Barranco, dans le sud, du côté de Punta Gorda. On écoute encore Andy Palacio.
Gene geti la farad nala gene geti la farad nala gene geti la farad nala Gene geti la farad nala, sandi nale anu agua.
Rouler à droite ou rouler à gauche, Nicolas? À droite. Est-ce qu'ils sont vraiment britanniques?
Oh, mais ce sera difficile avec les autres qui viennent des autres pays, je crois. Non, il faut s'habituer.
Ils
là.
Sont adaptés à leurs voisins.
Parce que c'est le... Oui, sûrement. C'est le seul pays qui parle anglais sur le continent américain, ça veut dire Amérique centrale, cette partie-là.
C'est vrai.
Mais ils sont très caribéens, ils sont très liés avec tout ce que nous connaissons des îles caribiennes, l'université, les enfants, les jeunes partent à Jamaïque. Il y a beaucoup d'échanges pour le tourisme, c'est vraiment lié avec le Caraïbe. Belize a l'avantage d'être caribien et Amérique centrale. C'est comme ça, dans la partie commerce aussi, Belize profite des deux choses différentes.
Des deux influences.
C'est un grand avantage pour eux, oui, oui.
Comment vous êtes-vous intéressé, parce qu'en fait, je ne voulais pas vraiment demander, comment est-ce qu'on tombe vraiment amoureuse de ce Belize? Pourquoi est-ce qu'une, je veux dire, une ancienne britannique, là, peut tomber amoureuse du Belize?
Parce que j'étais élevée un peu avec un amour du Caraïbe. Je l'ai connu, j'ai vécu un petit peu. Belize est caribien. Les gens sont très spéciaux. Ils adorent le pays et ils aiment bien partager ça avec les autres. Ils veulent que les autres aussi ont cet enthousiasme pour leur fierté.
Alors, vous avez un véritable tam-tam comme notre ami Gary Funia tout à l'heure et vous faites savoir que le Belize est un pays qu'il faut connaître et qu'il faut partager. Comment est-ce que le Suisse roman, comment est-ce que le Genevois réagit lorsque on lui parle du Belize? Est-ce qu'il y a déjà un engouement? Est-ce qu'il a fallu inventer cet engouement?
Il y avait beaucoup qui s'étaient déjà entendus, je crois. On a vu des programmes, surtout des gens qui adorent la nature, les gens qui veulent le tourisme d'aventure. C'est pas du tout le tourisme de luxe. Les gens qui veulent visiter, les gens qui veulent se connaître, les animaux, les gens, les peuples. Peut-être parce que les gens qui voyagent, souvent ils cherchent l'anglais qui est un langage qui parle facilement.
C'est plus facile en anglais qu'en espagnol d'après vous?
Oui, oui, oui. L'espagnol on peut parler, mais c'est pas du tout que tout le monde parle espagnol. Et puis le pays qui n'est pas connu. Il y a beaucoup de monde maintenant qui cherche le pays qui, où, c'est le pays où tout le monde ne connaît pas. Ça, c'est l'aventure. Nous avons beaucoup de gens qui retournent à Belize. Ce n'est pas la première fois, c'est la deuxième, troisième.
Vous voulez dire que c'est comme un virus, une fois qu'on l'a comme vous, on le garde.
Oui, je crois. Et puis, il y en a d'autres qui vont à Belize pour habiter. Pas mal de Suisses qui veulent habiter à Belize.
Quelles sont les ouvertures par rapport à cela?
Ça, il faut vraiment partir avec votre propre moyen et vos propres idées parce que prendre un travail de Bélisien, ce n'est pas du tout possible et c'est difficile. Mais si vous voulez investir, si vous voulez faire quelque chose pour les Belisiens, partagez vos connaissances, il y a toujours des ouvertures.
Donc si vous êtes un Francis Ford Coppola, vous pouvez très bien vous installer au Belize sans problème.
C'était sans problème, mais nous avons aussi envoyé des jeunes médecins qui voulaient faire des stages à Belize, qui ont travaillé dans l'hôpital, qui nous ont dit que c'était merveilleux parce que c'était une façon de vraiment travailler la médecine qu'ils n'ont jamais connue en Suisse, par exemple. Il y a beaucoup de jeunes qui partent pour faire des travaux dans les écoles, d'aider pour 3 mois, 4 mois, des choses comme ça, pour connaître Belize. Et il y a des grandes ouvertures pour des gens qui veulent donner.
Un touriste qui vient chercher un visa, qu'est-ce que vous lui dites? Je veux dire, quelle est votre vision, votre préparation personnelle, ou qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire avant de plonger dans le Blue Hole où nous irons tout à l'heure?
Ah, on lui dit les richesses de Belize. Quelquefois, il y a des gens qui veulent que voir la mer, les plonger. Il y a d'autres qui veulent voir tout le pays. La grande valeur que vous pouvez passer quelques jours à Belize, vous voyez tout parce que c'est petit. Sans voyager beaucoup, dans une journée, vous pouvez voir les montagnes, les pins,
les pins tout à l'heure, la forêt pluviale,
et finir à la mer.
Côté tropique, voir des... Qu'est-ce qu'on a comme bestioles? Les lamantins, par exemple. Ça, c'est une bestiole que j'aime bien, qui se trouve plutôt sur le côté maritime et fluvial.
Oui, qui est dans la mer. Ça ressemble à un gros... Qu'est-ce qu'on dit? Une grosse affaire grise.
Une grosse affaire grise.
Qui est merveilleux, qui ne bouge pas du tout, qui est la sea cow, comme on dit en anglais.
On appelle ça les sirènes pour les indigènes.
Les sirènes, mais quand on a l'idée d'une sirène avec des cheveux, longs cheveux et une grande queue, ce n'est pas trop ça. Mais
c'est un mammifère, c'est en fait.
Un mammifère très paisible.
Il vit dans les embouchures des fleuves.
Oui, qui est grand, gris, très grand.
Qu'est-ce qu'il mange? Des algues, des plantes aquatiques?
Des plantes aquatiques, l'herbe. Mmh. Il mange comme une vache, il est en train de...
Ça pèse 100 kilos
Au moins, oui. Mmh. C'est très grand.
C'est doux?
C'est très doux.
Vous inoffensif?
Complètement inoffensif. Mmh. Vous passez, si vous êtes avec des bateaux, on peut les approcher, on peut même presque les toucher.
Ah, c'est une vraie curiosité.
Ça bouge pas,
finalement.
Ça part pas, ça... Oui, c'est une grande curiosité. Il y a des dauphins.
Si je m'envole de Belize City, parce qu'il y a un petit aéroport quand même.
Tout petit, métropole, qui maintenant, je crois qu'il y a moins de trous pour le départ qu'il avait, mais c'est très bien maintenant.
On veut dire qu'on peut rouler sur la piste, c'est ça?
Exactement, oui.
L'autre arrivée, on parlait du Guatemala tout à l'heure par Flores et Tikal, ce serait de venir par le Campeche, la région de Chetumal, donc tout à fait du côté mexicain, en venant éventuellement même depuis Escarcega, en venant de Palenque, enfin les endroits plus connus, et de Villahermosa. On peut facilement rentrer au Belize par le Mexique également?
Oui. Il y a des bus aussi régulières.
Par le sud, c'est plus difficile.
Oui, c'est plus difficile. Par Honduras, il y a des ferries, des bateaux, mais c'est plus compliqué.
Ça, il vaut mieux nager qu'autre chose.
Exactement.
Et maintenant, si je prenais un petit avion sympathique et que je vous fasse atterrir à San Pedro et que j'aille du côté d'Ambergris, enfin cette île qui est la plus connue touristiquement parlant et qui va vous amener ensuite dans les... Moi, je dis toujours Cayes parce que j'aime bien le côté hispanique et vous dites toujours...
Les Keys.
Les Keys, à l'anglais, bien sûr. À l'anglaise, ça nous donne d'abord un rêve absolu. J'entends, quand un touriste me parle du Belize, ou un plongeur plus exactement, il me parle de Blue Hole.
Oui, le Blue Hole.
Comment vous le voyez d'avion, Blue Hole?
Un grand rang bleu profond avec un arrondi de rochers qui sont submergés. Soi-disant, il y a Cousteau qui a plongé là-dedans, qui ne trouvait pas le fond.
Donc c'est une sorte de, on va le dire quand même, c'est une caverne bleue qui est une véritable sensation. Et Blue Hole, c'est une cavité qui a un diamètre d'à peu près 300-350 mètres et qui fait à peu près 150 mètres de profondeur.
Oui, c'est un volcan qui n'est plus un volcan, c'est un atoll qui était un volcan.
Et pourtant, ça a dû être également une grotte, puisque lorsqu'on plonge à l'intérieur, aux alentours, je ne sais pas, c'était certainement qui au moment de la dernière glaciation était en surface et qui se trouvait, on imagine un niveau qui était inférieur d'à peu près 100 mètres. Là, j'imagine la mer. Hein. Oui. Et là, vous aviez une immense caverne calcaire et on suppose que le dessus, c'est-à-dire la voûte, se serait simplement brisée sous la pression des eaux au moment où elles sont montées. Et à partir de là, il semblerait qu'on a, lorsqu'en tout cas tous les plongeurs, que je ne suis jamais descendu si bas, mais lorsqu'on descend à 35 mètres de profondeur, on trouve d'immenses stalagmites qui font plus d'une dizaine de mètres, donc vraiment des choses énormes, de grosses colonnes comme ça, qui sont à partir de 35 mètres de profondeur. Donc on est bien dans une grotte, on est bien dans un univers totalement terrestre au départ.
Oui, et éventuellement c'était inondé, comme ça c'est maintenant, c'est sous la mer.
Alors c'est un des plus, mais si on veut plonger au Belize, et particulièrement à Blue Hole, il faut partir d'une des petits atolls ou des petites îles, où là aussi il y a de nouveau un certain confort.
Oui, oui, il y a du confort pour le plonger aussi, beaucoup d'écoles de plongée, des hôtels de confort, le bateau, la barrière de corail, le snorkeling.
On fait des excursions.
On fait des excursions. Le Blue Hole, on peut atteindre ou en bateau ou en avion. Les petits avions à terre, à côté, vous pouvez plonger de l'avion, vous pouvez aller en bateau. Il y a des bateaux très confortables qui partent pour faire le plonger. Vous pouvez passer 2 ou 3 jours sur un bateau pour plonger.
Mmh. Alors, ce Blue Hole, c'était juste une idée, mais vous avez parlé en même temps de snorkel. Donc, ça veut dire par là que la plongée n'est pas seulement avec des bouteilles. Madame peut suivre monsieur tranquillement et quand même voir des millions de poissons, finalement.
Des millions de poissons, des millions de couleurs, le corail, le plongée.
Le poisson orange, enfin, toutes les couleurs qu'on imagine sous l'eau.
Exactement, c'est un autre monde. Le silence et les couleurs.
Est-ce que c'est vraiment le deuxième ou troisième endroit du monde pour ce genre de choses? On pense aux Maldives, on pense aux Seychelles, on pense naturellement à l'Australie et à la barrière de corail d'Australie. Mais le Belize, tout comme la barrière qui continue jusqu'à Cancun, hein, tout en haut, c'est quand même, quand les plongeurs l'ont vécu, un des endroits qui les fascine le plus.
Mais il en a de plus en plus que dit c'est le premier endroit du monde.
Ah bah oui, bah alors on n'est pas conçu l'honoraire du Belize pour rien.
non,
mais je ne plaisante plus là. C'est-à-dire que c'était très peu connu jusqu'à maintenant.
Oui.
On peut l'aborder déjà du côté Honduras, on peut l'aborder du côté sud guatémaltèque ou ouest guatémaltèque, on peut l'aborder, on l'a dit, du Mexique, mais l'endroit idéal de la barrière, c'est quand même ces petits atolls et ces quilles du Belize.
Oui, il y a tout.
Comment est-ce qu'on y vit? C'est-à-dire qu'il faut le dire aussi, pour un enfant, pour une maman, ça n'est pas forcément l'endroit totalement idéal.
Pour les enfants très jeunes, non, pas tout à fait l'idéal.
Dites-nous
pour les
pourquoi.
Bref, s'il faut être honnête, il y a des moustiques aussi.
Et puis l'eau n'est pas très profonde.
Non, l'eau n'est pas très profonde, ça va pour les petits-enfants, mais
c'est un
voyage.
Oui, mais on doit marcher longtemps si on cherche vraiment de l'eau.
Oui, c'est vrai. On marche assez pour sortir des certains endroits. Il y a certains hôtels qui ont des jetties où vous pouvez partir
avec
nager,
des pontons, des choses comme ça.
Oui.
Donc, ce n'est pas toujours l'idéal par rapport à cela. C'est l'idéal pour la plongée, il faut le dire.
Oui, pour la plongée, c'est l'idéal. Pour les tout jeunes enfants, d'abord, c'est un très long voyage d'ici. Ça, c'est peut-être, il faut garder jusqu'à qu'ils soient un peu plus âgés pour apprécier la nature, pour apprécier les animaux.
Mais à partir de 7-8 ans, un enfant adore imaginer des milliers de papillons, des singes.
Des papillons, il y a un tout petit zoo merveilleux qui est, on voit tous les animaux, mais c'est
les
vraiment
oslos.
Les oslos, des jaguars,
les alligators,
oui c'est vrai, des crocodiles, des serpents.
Tiens, j'ai envie de vous emmener à quelque part, au Belize bien sûr, Nicolas Furet. Si je vous faisais partir de cette communauté étrange de Mennonites, vous savez, ils sont plusieurs milliers, parce que c'est un pays refuge.
Oui, c'est vrai. Il y a 30 000 Mennonites à Belize.
Est-ce qu'on peut expliquer leur trajet? Ils sont partis de Suisse?
Ils ont été
aux Pays-Bas?
Ils sont partis de Suisse, Allemagne, Pays-Bas. Ils sont
la France, à l'époque de Louis XVI, ils ont été chassés aussi.
Oui, c'est des gens qui ont voyagé, mais gardé leur culture, leur religion, parce qu'ils vivent complètement hors de la société belizienne.
Et ils se déplaçaient parce qu'ils refusaient le baptême et ils refusaient l'armée.
C'est ça.
Donc, obligatoirement, chaque fois qu'on les mettait dans une armée et qu'on voulait les baptiser, ils changeaient de pays.
Ils partaient, puis aussi, dans leur pensée, il fallait changer dans une partie tous les 12 ans, parce qu'on construisait, on faisait la ferme, et puis après, parce que Dieu le disait, il fallait recommencer complètement de nouveau. Moi, je crois que ça, c'est un petit peu perdu. Il y en a qui restent toute leur vie, mais il y en a qui voyagent, il y en a qui viennent. Oui, vous tombez au centre des Mennonites Spanish Lookout, et là, vous avez des clôtures blanches. Vous pouvez être au nord des États-Unis avec
ils
des fermes.
Ils sont géniaux, ils ont des salopettes avec des chemises à carreaux.
Exactement.
Ils portent des fromages dans leur petit cabas. Ils viennent vous vendre ça en ville.
Il a vraiment des Amish aussi qui voyagent qu'avec des chevaux, qui n'utilisent pas des tracteurs, pas de moteur. et que les femmes habillées dans les longues robes, les hommes avec le chapeau de paille et puis les pantalons. Et
il faut le dire, il y a un côté 18e, ce sont des gens tout qui refusent fait. Certaines choses de
tout,
la modernité.
Tout à fait, ils parlent leur propre langue, ils ont
un dialecte un peu
alémanique, mm-hmm. Oui, oui. Il y a une partie au nord de Belize où il avait un avion qui était atterré, ou qui était cassé, une constellation, et les Mennonites ont demandé s'ils pouvaient prendre les turbos. Le gouvernement a dit oui, ils ont fait un centre hydroélectrique, ils ont pris toutes les fils qui étaient là-dedans, et ils ont l'électricité sur des certaines fermes, mais vous voyez dans les fils électriques, ils ont un mètre chacun avec un nœud. Et tout ça, ça vient de ce petit centre hydroélectrique. Ce sont des gens qui vivent de tout, recyclage.
Ils ont le droit de recycler, mais ils n'ont pas le droit de...
Non, mais ils vont les œufs, le pain, tout ça pour Belize. En général, ils font les poulets. Ça, c'est leur culture.
Et puis leur jardin, bien sûr.
Leur jardin, les grandes cultures.
Juste à côté de chez eux, je prends un bateau assez rapide. Il est en train de s'élever sur l'eau par l'avant parce qu'il a un bon moteur à l'arrière. Et je remonte la New River. Vous connaissez cette région?
Oui, je monte jusqu'à Lamanai.
Oui, Lamanai est un autre site archéologique extraordinaire. Oui. Dans un entrelac de rivières avec des hérons, des aigrettes blanches, des milliers d'oiseaux aquatiques. C'est les alligators de tout à l'heure qui m'y ont fait penser.
Les petits alligators, les petits crocodiles, les tortues.
À toutes sortes de bestioles aquatiques.
Exactement. Et le site Mayan, qui est une pyramide où ils disent que là, ça prouvait que les Mayans étaient des gens qui allaient à la mer, qui descendaient en Colombie avec des teintures pour teindre les couleurs, que c'était des gens qui voyageaient partout.
Vous connaissez mon côté archéologue. Oui. Ce qui m'a troublé à Lamanai, c'est le premier endroit maya, on en a trouvé d'autres après, où l'on a découvert une coupelle en offrande avec du mercure à l'intérieur. Le mercure, quand on imagine pour des gens qui aiment le côté magique et étrange des choses, le mercure c'est vraiment ce vif argent, c'est cette chose qui bouge, c'est ce métal extraordinaire. Et on l'avait placé sous une stèle, devant une tombe importante, comme étant une offrande qui a été faite, je pense, dans les années 600 de notre ère. Une pyramide de 45 mètres de haut, donc ce n'est pas un petit site maya. Lamanai, ça veut dire l'endroit qui flotte comme l'alligator sur l'eau.
Oui, c'est ça.
Donc c'est la naissance du monde, c'est la naissance des choses. Vous l'avez vu, il sort tout juste de l'eau. On a l'impression effectivement que les petites Maya Mountains apparaissent à l'horizon. Oui. On est véritablement en Belize. Un immense alligator, tout nature, au bord de l'eau.
Agababana bongo anira Agababana bongo kase Biti gusana buzeru bebune Lebari baba Agababana bongo Agababana bongo anira Agababana bongo kase Biti gusana buzeru bebune Lebari baba Agababana bongo Suna no mate ariega bua 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 Agababana bongo anira Agababana bongo kase Bitigo sana buzeru bebune Limari baba Agababana bongo
Si je marche et que je traverse le Belize, Nicolas Furet, en partant de Lamanai, en partant de New River, je finirai de toute manière par tomber non seulement dans une réserve, mais dans un endroit totalement sauvage. Je sors ma machette, j'avance doucement. Ça ressemble quand même étrangement aux jungles qu'on imagine du côté Belize ou du côté Guatemala, c'est-à-dire la véritable forêt pluviale. Oui. Ce sera un peu notre conclusion finalement, cet endroit, parce que c'était le Belize d'avant, le Belize de toujours, le Belize Maya.
C'est sûr, là vous partez dans la forêt pluviale où il pleut tout le temps. On a l'impression que c'est la pluie parce que l'eau tombe. Vous avez les arbres, vous avez toutes les plantes que vous voyez ici dans les supermarchés, mais 25 000 fois plus grandes.
Ce côté dégoulinant en même temps.
Vous avez des papillons merveilleux, les grands bleus, les blancs. Vous avez des orchidées qui pondent des arbres. Et vous avez le sang des animaux, les oiseaux, les perroquets.
Je peux rajouter quelques apothillés, un peu d'acajou, je peux imaginer un agouti. Vous savez, c'est un tout petit rongeur, assez sympathique. Le tapir que vous avez évoqué, il y aurait même des cerfs, des lapins. Est-ce que l'iguane vous va bien aussi?
Oui, il est beau.
Vous avez déjà vu un armadillo?
Oui.
Armadillo,
oui,
vous savez,
le petit, là, oui.
Et puis le singe araignée, puisqu'on a parlé du singe hurleur, celui-ci a une queue de plus, comme si c'était une cinquième patte. Oslo jaguar, bien sûr. Mais si j'avais un oiseau, lequel choisiriez-vous?
Ah, le toucan de Belize, l'oiseau de Belize, avec son grand bec et son couleur noir, mais ses couleurs ravissantes, son bec qui est vert, qui est
rouge. Ce long bec comme ça.
Ce long bec un peu pointu, qui casse les noix, qui vole, qui passe sur votre tête et que vous le voyez de loin sur un arbre.
Toujours en couple?
Toujours en couple, puis il s'assoit de temps en temps, il est là avec ses couleurs, il repart.
C'est joli ça de dire s'asseoir pour un toucan.
Oui, il s'assoit, et puis après il repart avec toutes les couleurs qui flashent devant vos yeux. Vous avez peut-être un papier pillon sur l'autre coin, vous avez les arbres, vous avez des plantes, toutes ces plantes médicinales. Il y a chaque plante qui fait quelque chose de bien pour nous.
Nicolas Furet, la fleur nationale du Belize.
C'est l'orchidée noire.